c'est à la page 567. Il s'agit du livre de Néhémie. 567. C'est pas Matthieu, c'est bien Néhémie. Désolé. Je vais lire le texte maintenant. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu : les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit : Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur, à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Ça a été l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée pour les médias. Et un journaliste résume l'année écoulée de la façon suivante. Commencé dans les larmes et le sang par les attentats de janvier, elle se termine également dans les larmes et le sang des victimes tombées le 13 novembre à Paris sous les balles des terroristes. Les larmes et le sang, comme un fil rouge qui a traversé toute l'année écoulée. C'est sûr, les attentats de Paris ont marqué cette année. Et pleurer sur la ville, c'est le thème de ce premier message d'une série de 4 que l'on va avoir dans les prochaines semaines. Et pleurer, pourquoi ? Parce que dans ce qui ressemble à un carnet de bord, Néhémie écrit ces quelques mots. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré. Pourquoi est-ce que Néhémie a pleuré ? Qu'est-ce qui l'a fait pleurer ? Et ensuite, comment est-ce qu'il a réagi après avoir pleuré ? Ce sont les questions qu'on va se poser. Et on va ensuite réfléchir à la manière de les appliquer dans notre contexte ici à Paris. Le plan que je vous suggère est le suivant. Une nouvelle qui fait pleurer dans les versets 1 à 4. Et ensuite, une prière éclairée dans les versets 5 à 11. Une nouvelle qui fait pleurer, ça nous dit le contexte de cette nouvelle. Et ensuite, par la prière, il rend explicite ce qu'il ressent. Et aussi, il dit quelle direction il engage. En préparant le message, alors qu'il était question de larmes, de pleurer, j'ai regardé un petit peu quelques articles sur les pleurs. Et une des choses qui est assez intéressante, c'est que si c'est vrai que des animaux peuvent pleurer. C'est le propre de l'être humain que d'avoir des larmes sur un plan émotionnel. On utilise l'expression « les larmes de crocodile ». Et c'est vrai, il y a des animaux qui sont capables de pleurer, mais c'est le propre de l'homme, de l'être humain, de pleurer de tristesse, ou peut-être de joie. Et pourtant, en lisant certains articles, c'est intéressant de voir que des scientifiques, certains en tout cas, n'y voient qu'un même principe qui s'applique à tout, à tous, êtres humains ou animaux, l'instinct de survie. Un scientifique explique que les larmes seraient simplement le moyen de signaler sa détresse sans bruit, sans attirer l'attention d'un prédateur. Un autre pense qu'il s'agirait plutôt d'un signal de détresse pour obtenir du réconfort de la part des autres, toujours dans l'optique d'un instinct de survie. Intéressant, non ? On constate une distinction entre les êtres humains et les animaux, mais on veut quand même les réduire à un même principe, l'instinct de survie. Ce serait simplement l'instinct de survie. Est-ce que c'est par instinct de survie que Néhémie pleure ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus complexe dans la vocation humaine ? Selon le même présupposé d'un simple instinct de survie, on verrait chez Néhémie, dans la réaction qui suit, un être faible. Il se met à prier Dieu, comme s'il avait besoin d'un être supérieur. Mais cette manière de vouloir expliquer tous les comportements par un instinct de survie, si elle se veut élevée et rationnelle, quand on y réfléchit, elle est en fait réductrice, simpliste. Pourquoi est-ce que Néhémie pleure ? Eh bien, on verra dans la réponse qu'il ne s'agit pas d'un simple instinct de survie pour se protéger ou même obtenir du réconfort. Loin d'être faible, Néhémie est quelqu'un qui va montrer du courage, qui va être capable de risquer sa vie pour ses convictions. Et s'il a conscience de ses limites, quand il se tourne vers Dieu, c'est pour qu'il accomplisse ses projets, ses promesses. On va prendre d'abord une nouvelle qui fait pleurer dans les versets 1 à 4. Qui est ce Néhémie déjà ? Eh bien, il nous le dit dès le départ, il se présente comme le fils d'Akalia. Néhémie est hébreu, il est descendant d'exilés, il est né en exil. Nous sommes au temps du roi Artaxerxès. Je ne vais pas trop le dire parce que je vais m'en coubler à la fin. C'est un roi perse, on va peut-être l'appeler comme ça, le roi perse du moment. Nous sommes à Suse, la capitale pendant l'hiver, et nous sommes au mois de Kisleu, novembre, décembre de l'année, vraisemblablement 445 avant Jésus-Christ. On découvre au verset 11, Néhémie est échanson, c'est-à-dire c'est lui qui sert les boissons au roi. Et peut-être vous vous dites, c'est assez méprisable comme situation, mais c'est se tromper. À une époque où une des plus grosses craintes du roi, c'est le complot. Et une des méthodes les plus efficaces pour se débarrasser d'un roi, c'est l'empoisonnement. Le rôle de l'échanson a son importance. C'était quelqu'un de confiance. Les complots, on pouvait les faire en famille. C'est quelqu'un de confiance qui allait être en sa présence, qui allait goûter les mets du roi, en particulier les boissons, pour les servir ensuite. Bien avant Agatha Christie, on avait pensé à l'empoisonnement. Et Néhémie est donc à ses côtés la plupart du temps. Et on découvre là qu'un de ses frères revient avec d'autres de Jérusalem. Néhémie saisit l'occasion de lui demander des nouvelles de Jérusalem, de ceux qui ont été déportés, et de prendre ces nouvelles. Ça vaut la peine de s'arrêter quelques instants en se disant, c'est vrai, nous, de notre côté aussi, avec nos smartphones, la radio, avec des écrans ici et là, on est régulièrement informé. On a des nouvelles qui nous sont données régulièrement. Et j'imagine que chacun d'entre nous, on a une petite idée de ce qui se passe. Mais ici, l'intérêt de Néhémie va plus loin que la simple curiosité. Où est-ce qu'on voit ça ? Les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est le comble du malheur, du déshonneur pour la population. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et pourquoi est-ce que c'est plus que de la curiosité ? À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Avec l'ensemble du texte en tête, on réalise qu'il s'agit d'une période d'environ 4 mois. 4 mois où il est profondément triste dans une attitude de deuil, dans une attitude de prière. Alors il n'est pas resté à pleurer pendant ces 4 mois. En pleurant, il a dû travailler, il a dû tous les jours se mettre au service du roi justement. Mais la réaction de départ et ce qu'il a caractérisé tout au long de ces 4 mois, c'est d'être profondément triste. Comment comprendre cette profonde tristesse ? Imaginez pour vous, votre pays d'origine, la France ou un autre pays, vous êtes à distance, vous êtes loin géographiquement de votre pays d'origine, vous apprenez que le pays a été bombardé. Alors j'imagine que la nouvelle vous choquerait. Vous seriez troublé, peut-être inquiet pour des proches, des amis, la famille. Mais à la manière d'un Néhémie, pendant 4 mois, en train de pleurer, en train de porter le deuil, je ne sais pas si je serais dans ce même état de deuil. Comment comprendre cette tristesse ? On a besoin d'une petite chronologie des événements. Est-ce que la nouvelle qui lui est donnée, c'est la nouvelle de la destruction de Jérusalem qui a lieu en 587 par Nebuchadnezzar et les Babyloniens qui rasent la ville, qui font venir un certain nombre, qui déplacent une certaine partie de la population? Ça ne serait pas vraiment une nouvelle. Ça s'est passé 140 ans plus tôt. Alors, c'est vrai, les nouvelles prenaient plus de temps à d'autres chameaux à l'époque. Quand même, 140 ans, c'est beaucoup pour faire le voyage. Si on fait la chronologie, on voit qu'avant cette invasion, Dieu avait déjà annoncé par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, qui a vécu aux alentours de 700 ans avant Jésus-Christ, il avait annoncé cette invasion babylonienne, mais il avait aussi annoncé un temps de retour, une restauration du peuple. Il annonce qu'un certain Cyrus sera comme l'instrument de Dieu, comme un berger qui va ramener son peuple à Jérusalem. Et l'accomplissement de cette promesse, elle va se voir en 2 Chroniques 36, où Dieu a effectivement utilisé Cyrus pour faire revenir le peuple à Jérusalem et en Judée. Au temps d'Esdras, une quinzaine d'années avant Néhémie, on voit que la reconstruction de la ville est en train de se faire. Les murailles sont entamées. Et seulement, on découvre au chapitre 4 du livre d'Esdras que tout le monde n'est pas reconnaissant et heureux de cela. Un certain nombre d'opposants vont écrire une lettre au roi Artaxerxès pour lui demander d'arrêter les travaux, en disant que là, en reconstruisant, ils sont en train de monter justement un complot, une révolte. Et c'est bien ce que Artaxerxès va décider. Il va décider de faire stopper la reconstruction. Et tout le projet de reconstruction tombe à l'eau. Le peu qui a été construit va être détruit. Et c'est très certainement cette nouvelle-là que Néhémie entend. On peut imaginer la situation dans son esprit, le peuple s'enfonce à nouveau dans la précarité. Et on peut même se dire que la déception est encore plus grande parce que Dieu avait annoncé la destruction par les Babyloniens. Il avait annoncé le retour et ce retour s'est vécu. Mais là, tout à coup, c'est comme si les promesses de Dieu n'allaient pas vraiment s'accomplir. La restauration n'aurait pas vraiment lieu. Pourquoi Néhémie pleure-t-il ? D'où vient sa peine ? D'une part, de la précarité de la situation, mais ensuite du fait que ce sont les promesses de Dieu qui ne sont pas en train de s'accomplir. C'est un coup d'arrêt dans la rédemption promise par Dieu. Sans ces murs, sans cette protection, c'est l'avenir de la nation et donc des promesses. Promesses faites à Abraham, d'où viendra la lumière pour les nations ? Promesse à David, d'où viendra ce roi de ce chaos-là ? Roi d'une lignée davidique ? Néhémie est profondément affecté par cette nouvelle. J'ai commencé par mentionner les attentats de Paris et je me souviens en janvier dernier, juste après les attentats, on avait une rencontre à la pause de midi à la Défense et une dame est venue et je me souviens qu'elle avait dit que le lendemain de la prise d'otage, elle avait éprouvé le besoin de tout simplement se coucher pendant des heures durant la journée parce qu'elle sentait comme le poids de l'angoisse, de l'anxiété, sous le choc par rapport à ce qui s'était vécu. Et c'est tout à fait normal. Pour Néhémie, au-delà de la précarité et de l'insécurité dont il entend parler, c'est le coup d'arrêt dans l'espoir d'un accomplissement des promesses de Dieu, d'une rédemption sur un plan spirituel. Notre situation, elle n'est pas identique à celle de Néhémie. Et quelqu'un pourrait dire, mais ça c'est l'Ancien Testament, et nous alors? C'est vrai, il y a des différences entre les deux alliances. Mais si on regarde au Nouveau Testament, si on pense par exemple à ce que le Christ ressuscité a dit aux sept églises d'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et 3, il y a de quoi être interpellé. Le Seigneur avertit ces églises que s'ils ne réalisent pas les enjeux spirituels, leur chandelier, symbole de leur témoignage, là, va être enlevé. Et l'Asie mineure où se trouvaient ces églises, c'était le haut lieu, à la fin du premier siècle, du témoignage chrétien. Et à la fin, on voit que l'histoire, à la fin, pour un temps en tout cas, l'histoire nous montre, et aujourd'hui encore, que ces témoignages sont très faibles, très peu présents, à un moment donné presque inexistants en Asie mineure. Alors il ne s'agit pas de regretter une époque où, par exemple, comme ici en Europe, les rois ou ceux qui gouvernaient se réclamaient du christianisme. On n'a pas regretté un christianisme politisé, de façade, où on est de plus en plus en décalage avec l'enseignement de Jésus. On n'a pas à regretter ça. Et on constate d'ailleurs à l'heure actuelle que là où la progression de l'évangile se vit, c'est dans des lieux où il y a parfois une hostilité forte ou une indifférence par rapport au christianisme, en Chine ou en Iran par exemple. Non, ce qui affecte Néhémie et ce qui devrait nous affecter, c'est que l'avenir sur un plan spirituel est au point mort pour une ville, pour une nation. Est-ce que ça ne devrait pas nous attrister, nous aussi, en pensant à l'avenir de la ville de Paris, une nation comme la France? Est-ce qu'on ne devrait pas être attristé par le faible écho de l'évangile autour de nous? Et à l'inverse, on ne va pas pouvoir simplement se dire « notre église va bien, tout va bien » ou sur un plan personnel « je vais bien, tout va bien ». On ne peut quand même pas se dire ça. Il y a ici une invitation à se réjouir des endroits sur la terre où l'évangile progresse, où il y a une progression de l'évangile, mais aussi une invitation à s'attrister lorsque cet évangile ne progresse pas, lorsqu'il ne voit pas de fruits. Pleurer sur la ville. De toute ma vie, je crois que je peux compter sur le doigt d'une main le nombre de personnes pour lesquelles j'ai pleuré en pensant à leur besoin de salut, sur les doigts d'une main. On a une ville avec des millions d'habitants. Des millions d'habitants. Une ville qui a besoin d'entendre l'Évangile. Une ville qui a besoin d'entendre parler de cette rédemption en Jésus. Autant dire qu'on a besoin de l'œuvre de l'Esprit en nous pour nous y rendre sensibles. Sensible à la détresse ou besoin des gens autour de nous, parfois et même souvent inconscient. Après la nouvelle qui fait pleurer, Néhémie rend explicite par sa prière ce qui le rend triste et l'action qu'il croit devoir engager. Une prière éclairée. Le film Gravity, c'est l'histoire d'une astronaute qui se retrouve dans une mission et qui rencontre incident technique sur incident technique. Elle perd, suite à la collision de débris avec la navette, elle perd ses deux collègues et elle doit rejoindre une station russe avec toutes les peines du monde. Elle s'embarque dans un Soyouz, elle commence à... Enfin, elle espère s'en tirer, mais elle n'est pas du tout tirée d'affaire. Alors qu'elle désespère, alors qu'elle pense à la mort, alors qu'elle se met à parler tout haut, elle dit la chose suivante. Est-ce que quelqu'un va faire une prière pour moi ou est-ce que c'est trop tard? Je la ferai bien moi-même, mais je n'ai jamais prié de ma vie. Personne ne m'a montré comment faire. Et elle répète, personne ne m'a montré comment faire. Une astronaute qui n'a jamais appris à prier. Ça fait penser aux disciples de Jésus qui viennent un jour lui dire, apprends-nous à prier comme les disciples de Jean ont appris. À prier grâce à Jean. Et Jésus ne répond pas en disant « La prière, ça ne s'apprend pas, on prie et c'est tout. » Non, il ne répond pas ça. Il leur enseigne à prier. « Notre Père qui est aux cieux. » On a bien à apprendre à prier. Et il y a certainement quelque chose de cette prière de Néhémie que nous pouvons apprendre. Elle est éclairée à plusieurs égards. La prière de Néhémie est éclairée quant à la nature de Dieu, quant à la nature du péché en nous, quant à la nature des Écritures, quant à la nature de la prière. On va le faire rapidement. Quant à la nature de Dieu, comment est-ce qu'il démarre? Il démarre en disant « Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable ». Par ces paroles, et comme Jésus dans sa prière, on voit qu'il s'adresse à Dieu en tenant compte de son caractère tout autre. N'est pas en train de parler comme à n'importe quel vis-à-vis, comme on parlerait à un pote. L'Éternel, Yahvé, le Dieu de l'Alliance, Dieu grand et redoutable. Et Néhémie en a conscience. Et dans le même temps, il reconnaît en Dieu quelqu'un de fiable. Toi qui conserves ton alliance et ta bonté envers ceux qui t'aiment. Les deux sont vrais en même temps. Dieu est à la fois redoutable, on peut le craindre, on doit le craindre, mais il est fiable, il est bon. Et il peut s'approcher de lui en confiance. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Par rapport à ce qu'on vient de dire là, c'est intéressant de voir la manière dont il parle du roi perse qu'il sert. Ce roi a pouvoir de vie ou de mort sur lui, sur d'autres. Ce roi a pouvoir d'autoriser la reconstruction de Jérusalem et de la faire stopper, comme il l'a fait. Et pourtant, dans sa prière, il va parler simplement de cet homme, alors qu'il a parlé de Dieu comme celui qui est redoutable, grand et redoutable. La prière, c'est une bonne façon de mettre les choses en perspective, les personnes en perspective. Mais la prière est éclairée aussi quant à la nature du péché en nous. Néhémie aurait facilement pu dire, si nous sommes en exil, c'est à cause de nos pères, de nos ancêtres, et se distancier d'eux. Mais écoutez la manière dont il prie. J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. Ce n'est pas de la fausse modestie, une simple formule de langage. Verset 7, c'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Et il fait référence à la loi de Moïse. Notre prière, elle devrait aussi être éclairée par une bonne compréhension des Écritures et de nos décalages avec ces Écritures. Le fait de reconnaître Jésus comme roi, le fait de ne pas reconnaître Jésus comme roi souvent, de ne pas prendre notre engagement vis-à-vis de Dieu au sérieux, de l'offenser par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Cette parole, et par l'expression de la prière, elle devrait mettre en évidence ces décalages. Cette prière, elle est ensuite éclairée par quant à la nature des Écritures. Une chose qu'on apprend en tant que parent, et là il y a des jeunes parents, ne va pas les décourager d'avance, mais c'est que les promesses, les paroles ne tombent pas dans l'oreille des sourds. Et les enfants ne sont pas sourds. C'est-à-dire que si on leur dit qu'on va faire telle activité, ou alors qu'ils peuvent prendre tel jouet en sortant pour aller au parc ou en voiture, alors ils s'attendent à ce qu'on fasse telle activité, ou alors qu'on sorte avec tel jouet. Et Néhémie, ici, il n'hésite pas à citer la parole de Dieu dans sa prière. Il cite le livre du Deutéronome. « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. » Il rappelle les péchés par rapport à cette parole. Mais il dit ensuite, même si vous êtes exilés, il rappelle la parole de Dieu, à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là, je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Prier, c'est se saisir des promesses de Dieu, les faire nôtres, les rappeler à Dieu. La parole, elle est à la fois celle qui fonde l'accusation, décalage avec ce qu'il a demandé, mais elle fonde aussi notre espoir d'une rédemption, d'un changement, d'une intervention de la part de Dieu. Et c'est sur la base de cette parole que Néhémie prie. Il rappelle ensuite ce qui s'est passé en Égypte, la rédemption qu'il a opérée au tout début de l'histoire de ce peuple. Et l'argument est le suivant. Si tu es intervenu en faveur du peuple pour le libérer de l'esclavage en Égypte, est-ce que c'est maintenant que tu vas l'abandonner? Est-ce que c'est maintenant que tu vas laisser tes promesses non accomplies? Prier de cette façon, dans la soumission à Dieu, c'est s'inscrire dans ses projets avec toute la force de ses projets. À quoi ça pourrait ressembler pour nous? Par exemple, Dieu promet dans sa parole, Habacuc 2, verset 14, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » C'est ton projet, Père éternel, que cette terre soit remplie de ta connaissance, de la connaissance de ta gloire, et Paris en fait partie. Elle sera couverte de la connaissance de ta gloire. Alors intervient de sorte que le plus grand nombre puisse le reconnaître aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. Pour terminer, cette prière est éclairée. Quant à la nature de la prière, Néhémie est un exemple de prière et il prie de manière intéressante. Dans le chapitre 2, on va voir une prière éclair et il y en aura d'autres. Juste au moment de répondre à la question du roi, il dit qu'il a prié. Une prière éclair. Mais avant cette prière éclair, on peut aussi constater que pendant 4 mois, il a été, comme il le dit, jour et nuit dans une attitude de prière. Autrement dit, la vie de prière, elle est à la fois faite de récurrence, de régularité et de spontanéité. En parlant de la prière, j'imagine que chacun d'entre nous, et moi le premier, on se sent coupable, on ne se sent pas à la hauteur. Et dans un sens, c'est normal, parce que c'est bien un domaine où chacun d'entre nous, on a besoin de progresser. On voit aussi que la prière, elle n'est pas uniquement individuelle, elle est aussi collective, communautaire. Il parle de ses prières à lui, mais il dit au verset 11 que d'autres prient avec lui. On peut ensuite noter que la prière de Néhémie, elle est générale au départ. Il parle de la ville, de l'avenir du peuple, mais il va devenir de plus en plus spécifique. Parce que Néhémie a réalisé que pour que la reconstruction ait lieu là-bas, il va falloir que le roi perse qu'il sert tous les jours revienne sur le décret qu'il a édité sur le fait d'arrêter les travaux. On dit, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses, comme pour dire, c'est pas... il va falloir qu'il revienne en arrière. Et il devient spécifique dans le fait de demander que Dieu prépare et donne du succès à sa demande, parce qu'il sait aussi que lui-même, dans la position où il se trouve, il pourrait parler de cela au roi. Dans les mois qui viennent, on va parler pendant les annonces, il y aura une invitation à prier pour Paris pendant tout le mois de janvier. pendant nos rencontres le jeudi soir, il y aura une invitation sur un plan individuel et collectif à prier pour Paris, prier pour notre ville. On va commencer avec des généralités, mais en s'inspirant de cette prière, on va aussi prier de manière de plus en plus précise. On va prier pour des implantations d'églises, des églises qui démarrent à différents endroits. On va prier aussi pour que notre église puisse accueillir des personnes. Plus que cela, on va prier plus spécifiquement encore pour des personnes autour de nous à qui on voudrait parler de cet évangile. On va aussi prier que Dieu nous montre si on devrait, sur un plan personnel, participer à un projet d'implantation ou participer à une œuvre où l'annonce de l'évangile se vit. Ça va être spécifique à ce point-là. Parce que comme Néhémie, alors qu'on prie pour quelque chose de général, on réalise petit à petit qu'on a notre part à jouer, que Dieu choisit dans sa souveraineté souvent les moyens humains pour accomplir ses projets. Et Néhémie en a bien conscience. Prier, c'est déjà agir, mais c'est aussi préparer son cœur à agir. Et dans tout cela, que ce soit le fait de pleurer sur la ville ou de prier pour la ville, ce qui est profondément encourageant, c'est qu'on s'inscrit dans les projets de Dieu, dans ses projets à lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette parole. Te remercions pour ces promesses que tu tiens, qui toutes sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes par ton esprit d'être sensibles à la fois à nos péchés, mais aussi aux besoins de rédemption de ceux qui nous entourent. Besoin de voir cet évangile rayonner ici à Paris. Et nous te prions, Père, que tu prépares nos cœurs à agir en tant que témoins de l'évangile pour le bien de ces personnes et pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides individuellement et aussi en tant qu'Église à entrer dans tes projets, à être sensible à ta voix, sensible aux besoins profonds et réels de ceux qui nous entourent. Et nous te le prions au nom de Jésus. Amen.